XVI n'a qu'un homme, c'est sa femme, Mirabeau. Mille ans d'histoire. Le 16 octobre 1793, au cimetière de la Madeleine, quelques heures après son exécution, les Parisiens pouvaient encore voir le corps décapité de Marie-Antoinette, la tête jetée entre ses jambes. Comme si la mort de cette reine, guillotinée quelques heures plus tôt, n'avait pas suffi à apaiser la haine qu'avait concentrée sur elle cette femme de 37 ans, venue de Vienne en France en 1770 pour s'y marier avec le futur Louis XVI. Elle avait à l'époque à peine 14 ans et n'imaginait pas bien sûr le destin tragique qui l'attendait. L'amour des Parisiens, d'abord séduit par la grâce de cette petite princesse autrichienne, et puis très vite les calomnies et la haine que lui vaudront sa légèreté, ses dépenses et surtout dès 1789, une hostilité affichée à la Révolution française qui la conduira sur l'échafaud après un des procès les plus scandaleux de l'histoire.
Le tribunal, d'après la déclaration unanime du jury,
debout,
faisant droit sur le réquisitoire de l'accusateur public, d'après les lois par lui citées, condamne la dite Marie-Antoinette, dite Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet, à la peine de mort. Le présent jugement sera exécuté aujourd'hui, 16 octobre 1793, sur la place de la Révolution.
Aeternam de la eis domine et lux perpetua luce ad eis alternis caro venia.
Evelyne Levert, bonjour.
Bonjour.
C'était la mort de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui est née il y a 250 ans, jour pour jour, le 2 novembre 1755. Et Marie-Antoinette à laquelle vous avez consacré plusieurs biographies, dont l'une vient d'être rééditée chez Fayard, tandis que les éditions Talendier viennent, elles, de publier, sous votre direction, la correspondance de Marie-Antoinette. On oublie souvent, Evelyne Levert, qu'avant d'être une des femmes les plus détestées de France, elle avait d'abord été très populaire.
Absolument. Il y a eu véritablement un coup de foudre entre, disons, les Parisiens et les Français, mais les Parisiens surtout, et cette jeune dauphine, parce que finalement, les Français n'avaient pas eu depuis longtemps une reine qui leur sembla eh bien séduisante. La femme de Louis XV, Marie Leczinska, avait été extrêmement vivait retirée. C'était une femme douce, délicate, mais enfin qui n'était pas populaire. La femme de Louis XIV, eh bien, vivait dans l'ombre du roi Soleil. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de reine. Quant aux précédentes reines, ça avait été des régentes, et les régences, régence de Marie de Médicis, régence d'Anne d'Autriche, avaient été marquée par des troubles extrêmement graves. Donc pour la première fois, on voit arriver quelqu'un qui est jeune, qui est joli et qui va se conduire un peu différemment des autres reines, puisqu'elle vient à Paris. Louis XV, quand elle est dauphine, lui donne la permission d'aller dans la capitale. On la voit au théâtre, on la voit à l'opéra, on la voit dans un certain nombre de lieux publics et elle est à chaque fois follement acclamée. Et le coup de foudre va durer jusqu'à l'avènement de Louis XVI en 1774. Elle a à ce moment-là 19 ans. Et il y a une lune de miel entre les Parisiens et elle.
Mais qu'est-ce qui a changé justement dans la façon dont les Parisiens ont fini par détester cette femme? Pour quelle raison? À partir de quand? Vous dites que c'est quand elle devient reine en 1774. Mais pourquoi brusquement devient-elle extrêmement impopulaire? On dit souvent, d'abord que parce qu'elle n'a pas réussi à donner un héritier à Louis XVI avant longtemps, ce n'est que bien plus tard que naîtront les trois enfants qu'elle a eu avec Louis XVI. Il y a aussi peut-être le fait qu'on la soupçonnait, puisque c'était pas un mariage qui avait été consommé pendant longtemps en tout cas, d'avoir des amants. Alors autant un roi, on supporte qu'il ait des maîtresses, des favorites, on l'a vu avec Louis XV, on l'a vu avec Louis XIV, mais alors en revanche, qu'une reine trompe son mari, ça c'est intolérable.
Alors écoutez, je ne sais pas si elle a trompé son mari, on peut pas vraiment répondre.
On ne
peut pas vraiment répondre à cette question-là. Mais en tout cas, que se passe-t-il? très très vite. C'est que la désaffection ne vient pas d'abord des Parisiens, elle vient de la cour. Parce que lorsque Marie-Antoinette est reine, en 1774, elle n'a pas de modèle. C'était pas Marie Lexinskap qui pouvait être un modèle, c'était pas Marie-Thérèse, la femme de Louis XIV, donc elle n'a pas de modèle. Son seul modèle, c'est sa mère. Elle oublie que sa mère était un chef d'État. Elles sont donc dans des situations...
Marie-Thérèse tout... d'Autriche. Bon.
Et le rôle de reine est véritablement à inventer. Louis XVI lui laisse le droit, eh bien, de, et même le devoir, d'organiser les plaisirs de la cour. Mais elle, elle s'imagine qu'étant reine, elle peut vivre à sa guise. Et elle revendique, et c'est ça qui fait sans doute aujourd'hui sa modernité, elle revendique le droit pour une reine d'avoir une vie privée. Or, jusque-là, les souverains, les rois comme les reines, vivaient littéralement en public.
Comment dire, à la cour, on lui reproche au fond de ne pas en faire assez, d'être trop à l'écart.
Oui, alors elle se réfugie dans ses petits appartements et elle se constitue une petite coterie d'amis choisis selon son cœur qui lui plaisent beaucoup mieux que toutes les grandes familles auxquelles elle devrait eh bien, faire attention. Et oui, là, c'est... les pamphlets vont partir justement de ces grandes familles de la cour qui sont choquées parce que cette petite reine ne tient pas compte d'eux. Et alors, on commence à raconter, eh bien, à raconter quoi ? À raconter qu'elle fuit la couche conjugale, qu'elle n'est jamais avec son mari, comme le mariage mettra 7 ans à être consommé et qu'elle aime bien quand même s'entourer de jeunes gens, eh bien là, à ce moment-là, on imagine qu'elle a des amants, elle se réfugie dans son château de Trianon où simplement quelques privilégiés sont invités, et de ce fait, eh bien, de ce fait, on pense qu'elle a des amants.
Alors on lui reproche aussi ses dépenses très dépensières.
Oui, bah, oui elle s'habille
Trianon,
bien.
Il y a le hameau de la reine, il y a une garde-robe absolument monumentale.
Oui, mais comme toutes les jolies femmes, vous savez.
Il y a des bijoux, il y a cette fameuse affaire des bijoux de la reine. Je crois que vous étiez venu nous en parler déjà, donc on ne va pas insister dessus.
Non,
mais ça se passe en 1785, on est 4 ans avant une révolution qui, dès qu'elle se déclenche, provoque vraiment l'aversion de la reine. Elle déteste la révolution dès le début, Évelyne Levert.
Oui, mais alors, parce que son image s'est complètement dégradée entre 1974 et 1785. Elle passe pour une femme légère qui trompe son mari, elle passe pour une femme qui dilapide les deniers publics, et elle passe aussi pour une femme qui est... disons, l'agent de l'Autriche en France. Et là, le surnom d'Autrichienne qui commence à lui coller à la peau. Au début, bon, c'était l'Autrichienne parce qu'elle venait d'Autriche, certes, mais là, c'est plus du tout la même chose. C'est quelqu'un qui défend les intérêts des Habsbourg. Donc, elle a une image absolument déplorable à partir de 85 et cette image se fige de façon négative au moment de cette affaire du collier, c'est-à-dire en 85-86, lorsque le jugement est rendu.
Et puis alors, elle va s'aggraver bien sûr avec la Révolution. Elle déteste tout ce qu'a fait la Révolution dès le début.
Oui.
Très impressionnée par la chute de la Bastille, ne supportant pas l'abolition des privilèges à ce moment-là. Et puis surtout, elle va commettre alors des imprudences lorsque le 3 octobre 1789 à Versailles, elle est acclamée par le régiment de Flandre, dont les officiers ne cachent pas leur aversion pour la Révolution. Et ce qui va déchaîner contre la reine les journaux parisiens de Camille Desmoulins, de Danton et de Marat.
À Sa Majesté, la reine.
La reine ! Il y a ! Il y a !
Je suis bien aise de me trouver au milieu de mes amis.
Nous donnerons notre sang jusqu'à la dernière goutte pour votre majesté.
À bas l'Assemblée !
À bas l'Assemblée !
Et plus de cocardes tricolores ! Plus de cocardes tricolores !
Je n'oublierai jamais. Jamais.
Marat dit tout sur le banquet de Versailles.
Et c'est encore l'Autrichienne, responsable de ce coup monté, qui en fait orchestre toute la contre-révolution.
Peuple de Paris, l'attentat commis à Versailles est une insulte à la liberté. J'appelle à la rébellion. Non, à l'insurrection.
C'est pour le journal ?
Pour le plus grand des journaux, les murs de Paris.
Des femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain ! Mettez-vous en marche aussi pour l'honneur !
Allons chercher la boulangère et le boulanger ! Et le petit vitre !
L'Autrichienne !
Et c'est un extrait du très beau film de Robert Enrico, La Révolution française, lorsqu'en octobre 1789, les Parisiennes, les Parisiens sont venus à Versailles pour y chercher la famille royale, le boulanger, la boulangère, le petit Mitron, qui vont être installés aux Tuileries. Alors là, vraiment, plus encore que le roi, c'est à la reine que les Parisiens de 89 en veulent. Peut-être aussi parce que ce qu'on ne lui avait pas encore reproché et qu'on n'avait pas pu lui reprocher jusque-là, c'était d'intervenir en politique. Là, on va le lui reprocher. Vous rappelez, Évelyne Levert, qu'effectivement, elle va jouer un rôle politique énorme auprès de Louis XVI au début, dès le début de la Révolution.
Même avant, elle commence dès 1787, parce qu'en 1787, il y a une sorte de vide politique. Le roi sombre dans un état dépressif et alors que sa femme est vilipendée de toutes parts, eh bien, il s'appuie sur elle. Et là, Marie-Antoinette, qui n'a pas de culture politique, eh bien, se forge une culture politique, disons, très très rapidement. Et sa culture, elle la puise dans le passé. C'est-à-dire qu'il faut maintenir la monarchie coûte que coûte. Et la monarchie telle qu'elle existe. Et elle aura, tout au long de la Révolution, eh bien, elle sera pour une ligne dure, c'est-à-dire pour ne faire aucune concession à la Révolution, même, disons, à la Révolution la plus modérée.
Alors, elle va même aller au-delà, puisqu'elle va d'abord continuer à correspondre. Toutes ces lettres que vous avez publiées chez Talandier le prouvent. Elle correspond avec l'Autriche, il faut rappeler que c'est sa patrie, que les empereurs d'Autriche, Joseph II, puis Léopold II, puis François II, sont ses frères ou son neveu. Elle continue de correspondre par l'intermédiaire de l'ambassadeur d'Autriche en France, qui est Mercier Argenteau. L'Autriche qui va devenir l'ennemi, elle encourage, elle conspire avec Mirabeau, qui disait d'elle, d'ailleurs on l'a entendu au début, le seul homme du roi c'est sa femme, avec Barnave, mais elle pousse même à la guerre, en espérant bien sûr, Évelyne Levert, que ce soit l'Autriche, elle pousse la France, dont elle est la reine, à la guerre contre l'Autriche, en espérant que ce soit l'Autriche qui gagne, de manière à renverser la Révolution.
Oui, mais enfin disons tout ça c'est un petit peu rapide, si vous le voulez bien. Bon, tout d'abord elle a essayé ce qu'elle veut, c'est sauver avant tout la monarchie. On a deux logiques qui sont irréductibles l'une par rapport à l'autre. On a la logique de la monarchie qui est incarnée par Louis XVI et Marie-Antoinette, et Marie-Antoinette qui devient, si vous voulez, virile sur le plan politique. Et nous avons d'autre part la logique de la Révolution. Et ces deux logiques s'opposent. Alors, Marie-Antoinette, elle, fait appel à la solidarité des souverains étrangers pour aider le roi de France à récupérer les droits qu'il a perdus. Elle ne fait pas appel d'ailleurs qu'à l'Autriche, elle écrit au roi d'Espagne, elle écrit à Catherine II, etc. etc. Elle écrit à tous les souverains pour qu'il y ait formation d'une sorte de congrès. Elle souhaiterait qu'il soit à Aix-la-Chapelle, mais elle souhaite aussi que ce soit l'empereur qui soit en quelque sorte le président de ce congrès, pour mettre au pas, en quelque sorte, elle ne veut pas au début d'intervention armée, pour mettre au pas les révolutionnaires. Car elle est persuadée que c'est une poignée de factieux, comme elle dit, qui anime la Révolution. Bon. Et elle va essayer pendant des mois, n'est-ce pas, d'obtenir ce congrès, mais aucune des grandes puissances, eh bien, n'a l'intention d'intervenir dans les affaires françaises, car une France affaiblie par la Révolution, eh bien, intéresse beaucoup plus tous les souverains étrangers qu'une France forte. Donc, ses frères, surtout son frère Léopold, fait tout à fait la sourde oreille. François II, lui, son neveu, et beaucoup plus va en guerre, et c'est avec lui que la guerre va se faire. Enfin, c'est-à-dire que c'est le roi de France qui déclarera la guerre au roi de Bohême et de Hongrie, c'est-à-dire à l'empereur François d'Autriche, parce que il y a aussi en France des pressions de l'Assemblée législative, parce que les députés considèrent que Louis XVI et Marie-Antoinette jouent ce jeu-là et que la guerre permettra de démasquer les intentions des uns et des autres.
Il faut rappeler, mais avant même que la guerre se déclenche, c'est elle aussi qui a organisé cette fameuse fuite à Varennes en 1791.
Oui, parce que ça, c'est extrêmement important. C'était une étape absolument capitale. Parce que Marie-Antoinette et Louis XVI, pensant sauver la monarchie, refusent la Constitution, alors là nous revenons un tout petit peu en arrière, de 1789 à 1791, les États généraux proclamés Assemblée constituante, etc., eh bien, ont rédigé une Constitution et ils veulent, eh bien, une monarchie constitutionnelle, ce que Louis XVI n'accepte pas et ce que la reine n'accepte pas. Et c'est au moment où cette constitution va être promulguée que cette fuite vers la place forte de Montmédy est décidée par la reine qui a tout préparé, certes.
Avec la complicité de Fersen,
qui est son chevalier servant ou son amant, comme on veut. Et avec l'assentiment du roi. Et avant de partir, ce qui est très grave, c'est qu'avant de partir, Louis XVI a laissé un manifeste dans lequel il explique pourquoi il s'en va. Et il dit qu'il n'a consenti à tout ce qu'on l'a forcé à faire depuis 1789 que sous la contrainte. Par conséquent, lorsqu'ils sont arrêtés à Varennes, on a un roi parjure. Et on se demande, que va-t-on faire de ce roi parjure ? Alors, il y a toute une période, disons, d'hésitation. Et c'est à ce moment-là que l'idée de la République, eh bien, chemine.
Alors, elle va cheminer lorsque la guerre, justement, dont nous avons parlé, se déclenche
en 1792.
Elle va donc prendre plutôt le parti, secrètement en tout cas, le parti de l'Autriche. Elle va même encourager ce fameux manifeste de Brunswick. Brunswick était le commandant en chef de l'armée austro-prussienne qui promettait d'anéantir Paris si l'on faisait du tort ou si l'on s'en prenait à la famille royale. Ce qui d'ailleurs va provoquer l'effet inverse de celui qu'attendait Marie-Antoinette, la prise d'assaut des Tuileries le 10 août 1792, le plus grand tournant de la Révolution française, la chute de la monarchie, 3 ans après celle de la Bastille.
Eh bien, monsieur Roederer, qu'est-ce que nous devons faire maintenant ?
L'Assemblée nationale siège en permanence. Nous sommes d'avis que votre majesté s'y réfugie avec la famille royale, pendant qu'il en est encore temps.
Non, monsieur. Ici, nous sommes défendus. Pourquoi partir ?
Madame, tout Paris marche sur les Tuileries. Les fédérés marseillais et bretons sont prêts à tout.
L'arme au poing !
Voyez-vous-même, madame. Tout Paris, madame. Comment résister ?
Eh bien, marchons. Venez, madame.
Le roi et sa famille se rendent à l'Assemblée nationale. Je vous demande, au nom de l'Assemblée, de respecter leur personne.
Antoinette avait résolu, Antoinette avait résolu, de nous faire tomber sur le cul, de nous faire tomber sur le cul. Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé.
Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur, connaissait peu notre valeur, connaissait peu notre valeur. Va Louis Gros Paour du temple dans la tour.
Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la tour, elle voulut faire demi-tour, elle voulut faire demi-tour. Elle avait mal au cœur de se voir sans honneur.
Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
Et c'était Marc Augeret, 3 couplets de la Carmagnole qui datent du mois d'août 1792, pendant lequel donc la famille royale quitte définitivement les Tuileries pour être enfermée à la tour, c'est-à-dire en fait au temple. Le début d'ailleurs pour Marie-Antoinette de 14 mois épouvantables en prison, Evelyne Levert.
Oui, alors c'est une détention tout d'abord la famille, le roi, la reine, leurs enfants, Madame Royale et le petit dauphin, ainsi que Madame Élisabeth, se trouvent donc réduits à une vie de famille assez angoissante. Il y a un crescendo dans l'angoisse avec d'abord les massacres de septembre où on pense que la famille royale pourrait être elle-même massacrée et où il y a l'épisode célèbre de la tête de la princesse de Lamballe qui est promenée sous les fenêtres de la reine.
Qui était l'amie de Marie-Antoinette.
Et puis ensuite c'est le procès du roi, un procès qui est fait devant la Convention et l'exécution du roi le 21 janvier 1793. Après l'exécution de son époux, la reine reconnaît son fils, le dauphin, comme le roi Louis XVII, puisque le roi ne meurt jamais en France. Et Marie-Antoinette est véritablement une femme prostrée, vieillie avant l'âge.
Les cheveux blancs, oui, elle a 36 ans, 37 ans.
Oui, c'est une vieille femme amaigrie, à bout de force, épuisée par des hémorragies. Enfin, c'est une femme malade.
Oui. Et un drame affreux, parce que, bon, elle continue de correspondre avec l'extérieur, oui, secrètement, enfin, mais très, oui, très peu de lettres
peu de
cette
lettres.
Époque, on les voit
ce
dans
sont
votre
des billets,
livre.
Hein,
ce sont des billets, mais on la soupçonne, justement, d'entretenir la contre-révolution. La France, il faut le rappeler, à ce moment-là, est très, très menacée de l'extérieur, de l'intérieur. Il y a l'agitation qui se produit dans l'Ouest. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, pour éviter une restauration de Louis XVII, qu'on la sépare. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a eu de plus tragique. Le 13 juillet 1793, on la sépare de son fils, du dauphin, pour le confier à un savetier, Simon, qui va l'éduquer à la républicaine.
À la républicaine. Alors, on est dans un climat absolument infernal, parce qu'on a créé un tribunal d'exception qui est le tribunal révolutionnaire pour juger tous les suspects. La terreur va être proclamée, c'est-à-dire il faut terroriser les ennemis de l'intérieur comme les ennemis de l'extérieur, parce que la mort de Louis XVI a été à l'origine de la formation d'une coalition, et les armées étrangères progressent partout, en particulier au nord et à l'est, et bon, au sud, on a même les Anglais qui ont pris Marseille. Alors le 11 juillet, on a dénoncé un complot qui avait pour but de rétablir le jeune Louis XVII. C'est un complot complètement fantasmé, et c'est ainsi qu'on sépare le 13 juillet la mère de son fils. Le même 13 juillet, Marat est assassiné, les armées alliées poursuivent leur avance, et dans un climat de panique, eh bien Barrère réclame l'exécution de, enfin il réclame d'abord que Marie-Antoinette soit, oui, il réclame le procès de la reine. Et le 2 août, on conduit la malheureuse reine dans la prison de la conciergerie. On la sépare donc de ce qui lui restait de famille. Et il faut attendre le mois de septembre, le début du mois de septembre, pour qu'il y ait un événement qui va véritablement déclencher le procès. C'est la fameux complot de l'œillet.
Alors justement, bon, on n'a pas le temps, c'est un complot un peu compliqué,
oui,
mais à ce moment on cherche des actes d'accusation, on l'accuse de mener contre-révolutionnaire, on l'accuse de trahison, mais on ne dispose d'aucune preuve, sinon alors d'un ragot abominable qui va être colporté par le substitut du procureur de la commune, que l'accusateur Fouquier-Tinville fait venir à la barre le premier jour du procès de Marie-Antoinette, le 14 octobre 1793.
Faites entrer le témoin Hébert.
Nous avons une déposition du dit Simon, qui a surpris l'enfant se livrant à des pratiques indécentes, nuisibles pour sa santé. Simon lui a demandé qui lui avait enseigné ce comportement honteux. Et l'enfant a répondu que c'était sa mère et sa tante.
Silence ! Continuez votre déposition.
Il apparaît que ces deux femmes le faisaient souvent coucher entre elles. Que là, dans ce lit, il se commettait des actes de la débauche.
Accusé, qu'avez-vous à répondre?
Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas, parce que la nature elle-même rejette une telle accusation. J'en appelle à toutes les mères qui sont présentes ici. J'en appelle à vous.
Et c'est évidemment un des moments les plus forts de ce procès, une accusation d'inceste, d'ailleurs qui a failli se retourner contre l'accusation, vous le rappelez, Evelyne Levert. Ça n'empêche pas sa condamnation à mort, elle est exécutée le 16 octobre 1793, condamnée sans preuve. Alors évidemment, on dit ce procès est scandaleux. Ce qui est d'extraordinaire, c'est que après coup, ce n'est qu'après coup, que les preuves assez accablantes pour elle, c'est-à-dire sa correspondance que l'on voit dans ce livre, prouvent qu'elle, effectivement, elle trahissait. Elle indiquait, par exemple, aux Autrichiens les position de l'armée française. Donc, autrement dit, elle a été condamnée sans preuve, mais les preuves existaient.
C'est un procès de haute trahison. Hein. En fait, c'est bien ça. Bon, il y a l'élément abominable qu'on vient de dire, mais c'est un procès de haute trahison. Et on a la preuve que Marie-Antoinette avait communiqué les plans, disons, à l'ennemi. Mais, je le répète encore une fois, on est dans deux logiques qui s'opposent. Et je voudrais ajouter une chose, c'est qu'en 1815, quand il y aura la quadruple alliance et la pentarchie ensuite, c'est-à-dire la quintuple alliance, eh bien ce sera l'alliance des souverains entre eux contre leurs sujets révoltés. Si vous voulez, c'est l'idée de Marie-Antoinette qui sera reprise.
Comment se fait-il que 200 ans après, elle fascine encore autant, peut-être plus encore que Louis XVI ? Il y a un mythe, Marie-Antoinette. Moi, je me souviens, quand, il y a quelques années, quand il y a eu cette fameuse pièce de Robert Hossein et Alain Decaux, Je m'appelle Marie-Antoinette, on faisait voter les gens comme si le procès avait lieu. Ils votaient jamais pour la mort.
Oui, parce que Marie-Antoinette est entrée dans la légende lorsque le couperet de la guillotine s'est abattu sur elle. Et ce qui trouble, c'est que l'on... d'avoir eu ce destin qui apparaissait aussi radieux, et c'est cette longue déchéance qui la rapproche eh bien, du commun des mortels, et c'est là qu'on se met à scruter cette vie et à se demander ce qu'elle a été dans la réalité. Donc c'est devenu un mythe tout de suite, et il y a les deux mythes, le mythe républicain et le mythe royaliste, et il y a aussi un mythe entre les deux qui est un mythe purement humain.
Merci Évelyne Levert. Je rappelle donc que vous venez de faire paraître chez Talendier les correspondances de Marie-Antoinette. Vous êtes également l'auteur des Dernières Noces de la Monarchie. En fait, une réédition de vos biographies de Louis XVI et de Marie-Antoinette chez Fayard dans la collection Les Indispensables de l'Histoire. À lire également un ouvrage richement illustré, Marie-Antoinette, Image d'un destin de Xavier Salmon, publié chez Michel Lafon. Enfin, le magazine L'Histoire de ce mois-ci qui est consacré à Louis XVI. Vous avez pu entendre des extraits de la Révolution française et Les Années Lumière et est terrible, de Robert Henrico et Richard Effron, et puis un extrait de Marie-Antoinette, reine de France, de Jean Delannoy, avec Michel Morgan. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Olivier Leroux, Christophe Papon, Claire Tesser, Camille Pouge-Jalaguier et Mathieu Ménessy, et à la réalisatrice Anne Kobilac.